Chapitre 35. Les gardes spéciaux de Jagang avaient formé un cordon de sécurité pour contenir la foule. Le regard brillant de colère, l'empereur suivait la bataille qui faisait rage autour de lui. À l'évidence, il n'avait aucune intention de partir se mettre en sécurité. Sans ses protecteurs, il se serait probablement mêlé à la bagarre, jouant des poings et de la lame. Callan repéra Richard à l'autre extrémité du terrain. Avec ses peintures de guerre rouge, il semblait annoncer au monde des vivants que le royaume des morts était sur le point de l'envahir et de le submerger. Derrière le marqueur et ses équipiers, les spectateurs s'étripaient avec la rage que leur inspiraient l'alcool, la haine et la frustration. Les peintures de Richard risquaient de lui attirer de gros ennuis, comprit soudain Callan. Les Soudars savaient très bien qui il était et ce qu'il venait de faire. Pour certains, il s'agissait d'un héros, d'autres l'abominaient parce qu'il s'était opposé à Jagang. Si les meutes censées lui servir de couverture, la bonne vieille tactique de la boue en somme, se retournaient contre lui, il n'aurait pas une chance de s'en tirer. Dès qu'elle eut vérifié la position de ses anges gardiens et constaté qu'ils se souciaient exclusivement de protéger Jagang, Callan s'agenouilla à côté de Jillian. Nietzsche avait une plaie à la joue, toujours les maudites chevalières de l'empereur. Elle avait été sonnée mais reprenait déjà ses esprits.
« Nietzsche ! » souffla Callan en soulevant la tête et les épaules de son ami. « Vous pensez que c'est grave ? Pardon ? Vous êtes grièvement blessé ?»
Du bout d'un index, Callan écarta une mèche de cheveux blonds des yeux de la magicienne.
« Avez-vous quelque chose de cassé ?»
Nietzsche se palpa la mâchoire puis elle la fit bouger dans tous les sens.
« Je ne crois pas. Alors il faut vous relever. Nous ne pourrons pas rester longtemps ici. Richard a déclenché une guerre. »
Malgré la douleur, l'ancienne maîtresse de la mort réussit à sourire. Elle n'avait jamais douté du succès de son ami. Callan et Jillian aidèrent Nietzsche à se relever, puis elles la soutinrent. Jagang se retourna à cet instant et découvrit la scène. Prenant un des anges gardiens par les pans de sa chemise, il le tira vers lui, puis désigna la prisonnière de son bras libre.
« Ne la quitte pas des yeux, » dit-il en poussant le soldat vers Callan. « Surveillez-la tous. »
Les seuls hommes capables de voir la prisonnière, à part Richard et l'empereur, cessèrent de contribuer à la défense de leur chef et exécutèrent son ordre. Les soldats d'élite et les gardes du corps du tyran luttaient comme de beaux diables, mais ils cédaient inexorablement du terrain aux Soudars en colère. Les émeutiers n'avaient pas particulièrement envie de s'en prendre à l'escorte de Jagang. Pour tout dire, ils ne visaient pas vraiment le chef de l'ordre, même s'il était à l'origine du chaos. Trop occupés à se battre les uns contre les autres, les supporters avinés menaçaient néanmoins la sécurité du tyran. Aussi furieux qu'eux, Jagang reprocha à ses défenseurs de se montrer trop mous, puis il leur ordonna d'étriper les Soudars s'ils refusaient de s'écarter. « L'empereur, » comprit Callan, se fichait comme d'une guigne de sa sécurité. En revanche, il s'indignait que ses soldats manifestent une telle absence de vénération vis-à-vis de leur chef suprême. Les gardes n'hésitèrent pas une seconde. Oubliant le cordon de sécurité défensif, ils sortirent leurs armes et entreprirent de frapper dans le tas. Acceptant l'épée courte que lui tendait un de ses protecteurs, Jagang se mit lui aussi de la partie, frappant des hommes dont les cris de douleur restèrent inaudibles dans le vacarme ambiant. La plupart des Soudars n'entendaient même pas désobéir aux ordres et menacer leur chef, mais ils n'avaient pas le choix parce que des milliers d'autres hommes, aveuglés par la colère, les poussaient inexorablement en avant. Alors que le stade entier était le théâtre d'un sanglant affrontement, quelques centaines de malchanceux dérivaient vers les lames impitoyables des gardes d'élite de l'empereur. Callan voulut voir ce qui se passait sur le terrain. Elle sursauta en découvrant que Richard brandissait désormais un arc. Il avait encoché une flèche et enserré une autre entre ses dents. Au milieu de ses protecteurs, une épée à la lame rouge de sang au poing, Jagang organisait sa défense et y participait activement. Alors que des milliers de crétins s'entretuaient à cause du résultat contestable d'une rencontre de Jala, le responsable de ce désastre semblait prendre un plaisir sauvage à se retrouver au cœur de l'action. Sur le terrain, Richard venait de lâcher sa première flèche. Callan suivit des yeux la trajectoire du terrible projectile, vite suivi par un second. Cherchant à repousser un groupe d'émeutiers qui venait d'ouvrir une brèche dans la défense du tyran, un garde passa devant son chef et reçut à sa place la flèche qui lui était destinée.
touché sous le bras droit à la jointure entre les plates arrière et avant de son armure, l'homme s'écroula comme une masse. À la vitesse où il circulait, le projectile avait dû traverser les côtes sans problème et atteindre le cœur de l'autre côté du thorax. Surpris, Jagang pivota un peu sur lui-même et recula d'un pas. Ce réflexe suffit à lui sauver la vie, car la seconde flèche s'enfonça dans sa poitrine du côté droit. S'il n'avait pas bougé, il l'aurait reçu en plein cœur. À quoi tenait parfois l'issue d'une guerre? Mais comment Richard avait-il pu tirer avec une telle précision au milieu du chaos ambiant? Kalan n'en savait rien. En même temps, elle ne voyait pas comment un homme tel que lui aurait pu manquer sa cible en un instant pareil. Secoué par l'impact, Jagang tituba, puis tomba à genoux. Voyant qu'il était blessé, ses gardes vinrent former autour de lui un cercle si serré que plus aucun projectile ne pourrait l'atteindre. Jagang ayant disparu de sa vue derrière son bouclier humain, Kalan décida que c'était le moment d'agir. Pour commencer, elle enfonça le couteau qu'elle tenait de la main droite dans les reins d'un de ses gardes, un idiot qui tentait de savoir où en était l'empereur au lieu de protéger ses propres arrières. Enchaînant les actions, Kalan planta son deuxième couteau dans le ventre d'un homme placé sur sa gauche, puis elle imprima à la lame un mouvement ascendant et ouvrit les entrailles de sa victime. Réagissant enfin, un troisième ange gardien bondit sur la prisonnière. Toujours aussi vif d'esprit, Jillian lui fit un croc en jambe. Alors qu'il s'écroulait, Kalan, d'un geste précis et rapide, lui ouvrit la gorge au passage. Se désintéressant de sa victime, elle chercha de nouveau Richard du regard. À présent, il se battait avec une épée. Alors qu'un homme approchait dans le dos de Kalan, visiblement avec l'intention de la désarmer, Nietzsche lui enfonça son couteau entre les omoplates. Soucieuse de soigner le travail, elle doubla le coup à une vitesse digne des meilleurs spécialistes. Pour une débutante, dans l'art de manier les lames, elle s'en sortait remarquablement bien. Un cinquième type ceintura Jillian et avança vers Kalan. Derrière la petite, il devait se sentir invincible, mais la prisonnière frappa le bras qu'il avait enroulé autour du cou de son otage. La douleur obligea le soldat à relâcher sa prise. Jillian en profita pour lui échapper, laissant à Kalan une cible parfaite. La prisonnière avança, enfonça sa lame dans l'abdomen exposé du type et pratiqua une incision horizontale. Quand elle retira la lame, les intestins de l'homme se déversèrent par la plaie béante. Le soldat baissa sur son ventre des yeux incrédules, puis il bascula en avant, s'écroula et ne bougea plus. Il restait un sixième ange gardien, mais dans la confusion, Kalan ne parvint pas à le localiser. Derrière Richard, des centaines d'hommes continuaient à dévaler la pente pour se retrouver sur le terrain de Jala. Au début, les archers avaient tenté de les repousser, mais ils avaient renoncé depuis longtemps, préférant la fuite, ce qu'on pouvait aussi appeler un repli stratégique, à une mort certaine. La majorité des porteurs de torches ayant opté pour la même tactique, il faisait de plus en plus sombre. Le terrain était envahi de combattants. Certains ferraillaient pour se défendre, d'autres pour venger quelque offense réelle ou imaginaire. Après une journée de beuverie et de djala, la majorité des soudards se battaient pour le plaisir, tout simplement. Des blessés gisaient un peu partout. Malgré leurs cris de douleur, personne ne songeait à les aider. Au milieu de combattants au visage et au corps couvert de sang, Richard passait de nouveau inaperçu. Noyé dans la masse, il ne risquait plus autant d'être pris pour cible. Les combattants ne faiblissaient pas. Plongés dans leur élément naturel, la guerre, ils tranchaient des bras, faisaient éclater des crânes et défonçaient des thorax sans se soucier d'avoir affaire à des membres de leur propre camp. Non sans difficulté, Kalan parvenait à suivre les évolutions de Richard. Tous les soudards qui le reconnaissaient encore l'attaquaient, car il s'était rendu coupable d'un crime capital, croire qu'il était possible de vaincre l'équipe du dieu vivant nommé Jagang le Juste. Et en un sens, il y était parvenu. Pour cela, les élateurs de l'ordre le vomissaient, tant d'arrogance à leurs yeux ne pouvait pas rester impunie. Pensait-il qu'il aurait dû perdre délibérément? Probablement oui. Pour ces hommes, toute forme d'ambition était une insupportable manifestation d'individualisme. La résignation et l'échec, en revanche, leur semblaient admirables. Une forme de communion dans la médiocrité qui renforçait leur croyance en un monde parfait et décérébré. Les bouchers de l'ordre ne s'interrogeaient jamais sur le bien fondé de leurs actes.
Programmés pour massacrer, ils remplissaient leur mission jusqu'à ce que quelqu'un de plus fort les éventre à leur tour. Tandis qu'ils traversaient le terrain, Richard ne se privait pas de les tailler en pièces. Sans haine et sans colère visible, il se frayait un chemin à coups d'épée, laissant des dizaines de cadavres dans son sillage.
« Que faisons-nous ? »
demanda soudain Gillian d'une voix tremblante. Callan regarda autour d'elle et constata qu'il n'y avait pas d'issue. L'armée de l'ordre encerclait les deux femmes et la fillette, et il n'y avait pas l'ombre d'une brèche en vue. Étant invisible, Callan avait une chance de s'en sortir, mais il n'était pas question qu'elle abandonne ses deux compagnes, et de toute façon il restait le problème du Radahan.
« Il faut rester ici !»
lança Nietzsche. Même si c'était de toute manière la seule solution, Callan ne cacha pas son étonnement.
« Pourquoi ?»
demanda-t-elle.
« Parce que Richard aura du mal à nous retrouver si nous changeons de place. »
Même s'il les rejoignait, que pourrait-il faire ? Les deux prisonnières portaient un collier, et Jagang, bien que blessé, n'avait apparemment pas perdu conscience. En cas de fuite, il interviendrait, quitte à tuer une des deux femmes, voire les deux, s'il ne pouvait pas faire autrement. Tôt ou tard, il faudrait prendre ce risque, mais ça semblait encore prématuré. Si Richard réussissait à achever l'empereur, tout serait différent, à condition qu'Ulissia ou Armina ne se montrent pas entre-temps. Ses pouvoirs lui permettant de les contrôler à distance, Jagang les avait peut-être déjà appelés à la rescousse.
« Pour le moment, » dit Callan, « nous sommes moins en danger ici, parce que les gardes de Jagang nous protègent indirectement, mais ça risque de ne pas durer. »
Toujours agenouillé au centre d'un cercle de protecteurs, Jagang se tenait la poitrine. Accroupi près de lui, quelques hommes s'apprêtaient à le soutenir s'il fallait qu'il se relève et batte en retraite avec son escorte. Quelques hommes criaient qu'il fallait faire venir une sœur pour soigner l'empereur. Pendant ce temps, leurs camarades taillaient en pièces tous les soudards qui osaient approcher. Autour du cercle de défenseurs, le sol était rouge de sang et de fluides visqueux répugnants. Comme hypnotisé, Callan suivait toujours la progression de Richard. Alors que des dizaines d'hommes rêvaient de le tuer, il avançait calmement, avec la grâce et la fluidité d'un spectre. Comme lorsqu'il jouait au Jala, sa vivacité lui permettait d'éviter la majorité des attaques, mais à présent il ne portait plus un broc calé au creux d'un bras, armé d'une épée, il ripostait et chacun de ses coups prenait une vie. Avec une extraordinaire économie de moyens, il traversait le terrain, semant la mort sur son passage. Parfaitement serein, il se contentait d'abattre les adversaires qui menaçaient sérieusement de le ralentir. De temps en temps, agacé qu'un imbécile se croit capable de l'affronter en brandissant un simple couteau, il le décapitait presque nonchalamment. Callan comprit qu'il n'y avait rien de méprisant dans cette façon de faire. Simplement, Richard avait une manière unique de manier une arme. Sa technique ne ressemblait pas à celle des soudards qui l'entouraient. Très curieusement, Callan y reconnut en partie sa propre façon de se battre. Même si les hommes de l'ordre étaient en permanence pris par surprise, elle anticipait constamment les parades et les attaques du seigneurial. Il existait bien entendu des différences entre leurs techniques de combat. Plus grand et plus fort, Richard se reposait souvent sur ses qualités pour se sortir d'une situation délicate, mais dans l'ensemble, il semblait appartenir à la même école qu'elle, à croire qu'ils avaient un jour puisé aux mêmes sources. Avait-il eu un professeur commun?
C'était possible.
Hélas, avec le sort d'oubli, elle était incapable de s'en souvenir. Si puissant qu'il fût, Richard ne gaspillait jamais son énergie en fioritures. Pareillement, il attendait ses adversaires au lieu de fondre sur eux, se limitait la plupart du temps à des mouvements précis et très peu amples, et utilisait la vitesse de ses agresseurs pour mieux les laisser s'empaler sur sa lame. Comme s'il avait sans cesse un temps d'avance, il chorégraphiait le combat à sa guise. Et en se frayant un chemin dans cet enfer, il parvenait à toujours garder Callan dans son champ de vision. Malgré ses qualités, Richard restait quand même un homme de chair et de sang. Un peu plus tôt, contre l'équipe de Jagang, il avait recouru à un bélier humain pour percer des défenses pourtant solides. Désormais, c'était son tour de subir la pression, mais celle d'une marée humaine dans son cas. Malgré son courage et ses compétences, il avait de plus en plus de mal à ne pas se laisser emporter. Soudain, Callan le perdit de vue.
« Que faisons-nous ? »
demanda de nouveau Gillian.
Du coin de l'œil, Kalan vit que Jagang crachait du sang et qu'il avait du mal à respirer.
« Je crois qu'il est temps de bouger. »«
Non !»
s'écria Nietzsche.
« Si Richard ne nous retrouve pas, nous sommes fichus. »«
Et s'il nous retrouve, que pourra-t-il faire dans ce chaos ?»«
Après tout ce que vous avez vu, je pensais que vous aviez appris à ne jamais le sous-estimer. »
Nietzsche a raison,
intervint Gillian.
J'ai vu Richard revenir du royaume des morts. Rien ne l'arrête.